VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 6 novembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia pour commencer les titres. Au Burkina Faso, une association de défense des droits de l'homme dénonce une réquisition ciblée d'opposants pour la lutte anti-djihadiste. Au Soudan, plus de 20 civils tués dans la chute d'Obi sur un marché proche de Khartoum, la capitale. En Ouganda, le président Yoweri Museveni minimise l'exclusion de son pays d'un accord commercial par Washington. Frappes israéliennes intenses à Gaza en pleine tournée régionale du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, axée sur l'aide humanitaire à la population palestinienne assiégée. Pour leur part, les chefs des grandes agences onusiennes réclament un cessez-le-feu à Gaza. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, une association de défense des droits humains a dénoncé hier une réquisition massive et ciblée de citoyens critiques du pouvoir pour la lutte anti-djihadiste. En vue de cette réquisition, les autorités militaires appliquent un décret adopté en avril et portant mobilisation générale. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
C'est avec indignation que le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples apprend que, pour la énième fois, le régime militaire au pouvoir procède en ce moment même à une réquisition massive et ciblée de citoyens en application du décret portant mobilisation générale, a écrit l'association dans un communiqué. Ces réquisitions concernent, pour l'essentiel, des membres du collectif d'organisations syndicales et de la société civile ayant annoncé la tenue d'un meeting le 31 octobre dernier à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Des journalistes, leaders d'opinion et hommes politiques critiques sur la gestion actuelle des affaires du pays sont aussi visés, précise le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. La CGTB, Confédération générale des travailleurs du Burkina, a également dénoncé dans un communiqué des réquisitions arbitraires et note un acharnement contre des citoyens ayant exprimé des opinions critiques vis-à-vis des autorités de la transition. Elle s'est indignée d'une application punitive et sélective du décret portant mobilisation générale. Selon le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ce décret a été spécialement conçu et adopté non pour contribuer à la lutte contre le terrorisme, mais pour réprimer toute personne émettant un avis sur la gestion actuelle du pays qui ne rencontrerait pas l'assentiment des autorités militaires. Par ailleurs, plusieurs cas d'enlèvement ont été rapportés ces derniers mois par des sources locales à Ouagadougou.
Notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale qu'hier dimanche au quartier Apollo, une bagarre fratricide entre jeunes armés de machettes et autres armes blanches a eu lieu dans la mi-journée entre les militants de l'UNAFEC, surnommés Zulu, et les hommes d'un transfuge de l'UNAFEC dénommé RDC, qui venait d'adhérer à un autre parti politique RDF, Action pour la rupture et le développement du gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. Le bilan provisoire de la bagarre fait état d'un mort, un jeune porté disparu et plusieurs blessés graves, mais aussi plusieurs dégâts matériels et autres biens emportés comme butin, selon les témoignages recueillis sur place par Narval. Au Soudan, plus de 20 civils ont été tués et d'autres blessés dimanche soir par la chute d'Obi sur un marché à Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, la capitale de ce pays déchiré par la guerre entre généraux rivaux depuis avril. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le comité d'avocats pro-démocratie qui documente les victimes civiles et les violations des droits humains dans le conflit. La veille, au moins 15 civils ont été tués par des obus tombés sur leur maison à Khartoum, avait indiqué une source médicale. Le président ougandais Yoweri Museveni a affirmé hier dimanche que les États-Unis surestimaient leur importance après que Washington a annoncé retirer l'Ouganda de l'AGOA, un accord commercial majeur en raison de violations des droits humains. Le point avec Abdourahmane Dia.
Yoweri Museveni a dit aux Ougandais de ne pas être trop inquiets des récentes actions du gouvernement américain visant à décourager leurs entreprises d'investir en Ouganda et du retrait de l'Ouganda de la liste AGOA. Certains de ces acteurs dans le monde occidental se surestiment et sous-estiment les combattants de la liberté en Afrique, a-t-il dit. Nous avons en Ouganda la capacité de réussir notre croissance et nos objectifs de transformation, même si certains acteurs ne nous soutiennent pas, a estimé le président Museveni. Néanmoins, un de ses hauts conseillers a indiqué mercredi que le gouvernement restait ouvert aux discussions avec Washington, estimant que cette exclusion allait faire souffrir les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises ougandais. Il a souligné que l'AGOA, quoique insignifiant, était un pilier important de la stratégie économique de Kampala. Dès l'adoption de la loi anti-homosexualité, Joe Biden avait appelé à son abrogation immédiate et menacé de réduire les aides et investissements américains en Ouganda. En août, la Banque mondiale a annoncé la suspension de nouveaux prêts à l'Ouganda.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a annoncé dimanche une campagne de frappe significative dans la bande de Gaza qu'elle a coupée en deux en pleine tournée régionale du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, axée sur l'aide humanitaire à la population palestinienne assiégée. 9770 personnes ont été tuées, dont la moitié des enfants, selon le gouvernement du Hamas, dans les bombardements israéliens effectués sans cesse sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque d'une violence et d'une ampleur inédite du mouvement palestinien islamiste palestinien en Israël. Plus de 1400 personnes ont péri dans ce pays, majoritairement des civils tués le 7 octobre par les commandos du Hamas qui ont en outre pris en otage plus de 240 personnes d'après les autorités israéliennes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive en Turquie aujourd'hui pour tenter d'apaiser la colère de l'un des alliés les plus stratégiques mais les plus difficiles de Washington en pleine guerre à Gaza. Cette première visite d'Anthony Blinken en Turquie depuis qu'Israël est entré en guerre contre le Hamas en représailles à l'attaque perpétrée par les combattants du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier intervient alors que la colère contre Israël et l'Occident se fait entendre dans les rues de Turquie et dans le palais du président Recep Tayyip Erdogan. M. Blinken a tenté d'obtenir hier dimanche, lors d'étapes en Cisjordanie puis à Chypre, des avancées sur le sort de la population de Gaza prise au piège de la guerre qui fait rage depuis près d'un mois entre Israël et le Hamas. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé devant le secrétaire d'État américain ce qu'il a appelé la guerre de génocide menée selon lui par Israël à Gaza. Le point par Eric Manirakidza.
En visite en Cisjordanie occupée pour la première fois depuis le début de la guerre le 7 octobre, le secrétaire d'État américain a mis en garde contre le déplacement forcé des civils palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza où Israël poursuit son offensive. Selon son porte-parole, Anthony Blinken a réaffirmé l'engagement des États-Unis pour la livraison d'une aide humanitaire vitale et la reprise des services essentiels à Gaza. Il a aussi réclamé l'arrêt des violences des extrémistes en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Les violences y ont redoublé depuis le début de la guerre et font craindre une extension du conflit. À Chypre, Blinken a ensuite rencontré le président pour discuter, selon la présidence chypriote, de la création d'un couloir maritime afin de fournir une assistance humanitaire à Gaza. L'autorité palestinienne n'exerçait plus aucun contrôle sur la bande de Gaza depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007 et Mahmoud Abbas a lié dimanche son retour à Gaza à l'issue de la guerre évoquée par Washington à un règlement politique qui engloberait aussi la Cisjordanie et Jérusalem est occupée. Dimanche, malgré de multiples appels à une trêve, des combats acharnés se sont poursuivis entre les soldats israéliens et le Hamas dans la bande de Gaza. Les tensions sont très vives aussi dans le nord d'Israël, à la frontière avec le sud du Liban. Les échanges de tirs sont quotidiens entre l'armée israélienne et le mouvement pro-iranien Hezbollah, allié du Hamas.
Pour leur part, les directeurs des principales agences de l'ONU ont publié hier un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles à Gaza et réclamer un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la guerre entre Israël et le Hamas. Depuis presque un mois, le monde observe la situation qui se déroule en Israël et dans le territoire palestinien occupé avec choc et horreur face au nombre grandissant de victimes. Perdus et ravagés, ont écrit les chefs des agences onusiennes. Les dirigeants de 18 organisations dont l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé ont déploré le bilan des victimes de cette guerre entre Israël et le Hamas. Ils ont aussi appelé le Hamas à libérer les plus de 240 otages enlevés le 7 octobre. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le Comité consultatif international sur le coton a indiqué que les stocks mondiaux devraient atteindre 23,32 millions de tonnes en 2023-2024, soit le volume le plus important jamais enregistré. La Chine devrait afficher des réserves de 9,16 millions de tonnes. La moyenne de l'indice A du Cotlook devrait s'établir à 86 cents pour la livre de fibres et les superficies plantées devraient s'établir à 32,2 millions d'hectares. Le fabricant américain d'équipements agricoles John Deere va construire une usine d'assemblage de tracteurs au Nigeria. Le Nigeria s'est engagé à améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En juillet, le président Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence sur la sécurité alimentaire, promettant des investissements massifs dans les engrais et semences certifiées, la mécanisation, la formation et la transformation des produits agricoles. Kinetico Energy va exécuter une campagne de forage de 5 puits en Afrique du Sud dès février 2024. Ces opérations couvriront la région sud du périmètre d'exploration gazière 271 dans la province de Mpumalanga. La direction de l'entreprise a précisé que des tests d'écoulement de puits prolongés donneront une idée de la longévité des plateaux.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Coup d'envoi de la Ligue des champions féminines de la CAF en Côte d'Ivoire.
Oui, et on a eu droit aux deux premiers matchs du groupe A. Entrée réussie pour les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, victorieuse 2-0 des Tanzaniennes de JKT Queens. En revanche, le club hôte Atlético FC d'Abidjan a été accroché 1-1 par le second représentant marocain, le Sporting Club de Casablanca. Suite de la première journée de ces matchs de poule, aujourd'hui, avec les deux rencontres de la poule B, les tenants du titre marocain d'Asfa jouent les Ghanéennes d'Ampen d'Ankoa et les Équato-Guinéennes d'Arakanès feront face aux Maliennes de l'AS Mandé.
Chez les hommes, on a eu droit hier à la finale aller de la Ligue africaine de football.
Tout à fait. Et le Wydad de Casablanca s'impose de justesse lors du premier acte de cette finale. Les Marocains sont venus à bout des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1 dans un stade Mohamed V à guichet fermé. Le club de Pretoria tentera de se rattraper à domicile pour la manche retour prévue dimanche prochain.
Basketball à présent, on connaît déjà les premiers qualifiés pour la phase finale de la 4e édition de la Basketball Africa League.
Effectivement Idrissa, et c'est la division Ouest qui livre ses trois représentants. Les Centrafricains de Bangui Sporting Club, les Marocains du Fus de Rabat et les Libyens de Benghazi. Le Bangui Sporting Club prend d'ailleurs la première place suite à sa victoire en finale sur le Fus de Rabat 93-90. Al Ahly Benghazi finit troisième après avoir remporté le match de classement 93-84 devant le club hôte les Fabs du Cameroun. La suite de cette élite 16, c'est dans la division Est qui se déroulera du 14 au 19 novembre prochain à Johannesburg en Afrique du Sud.
On termine par le vélo avec l'épilogue du Tour du Faso.
Et c'est Paul Demont qui remporte la 34e édition de ce Tour international. Le Burkinabé a fait forte sensation en remportant 5 des 10 étapes de cette compétition qui s'est déroulée du 27 octobre au 5 novembre.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, de nouveaux ennuis pour l'ancien chef de la junte au pouvoir en 2009. Le capitaine Moussa Dadis Camara et trois de ses co-détenus sont visés par une enquête pour des faits d'évasion, de détention illégale d'armes de guerre, d'association de malfaiteurs et complicité. Samedi matin, les quatre prisonniers ont quitté leur cellule, aidés par un commando lourdement armé, selon les autorités militaires, qui ont également annoncé avoir réussi à mettre la main sur trois des fugitifs. Des fugitifs dont les avocats parlent d'enlèvement. Des réactions à Conakry recueillies par notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Les quatre détenus font partie des principaux accusés dans le procès en cours des événements du 28 septembre 2009, d'où l'inquiétude de ces Guinéens rencontrés dans la banlieue de Conakry.
On avait estimé que toutes les mesures sont prises pour vraiment assurer la bonne tenue de ce procès. Mais malheureusement, ce qui s'est passé avant-hier nuit à la maison centrale de Koronti prouve à suffisance que, contrairement à ce que le ministre de la Justice nous a vendu comme rêve, vraiment n'était pas le cas sur le terrain.
Les victimes sont beaucoup plus inquiets par rapport à ce qui s'est passé. Parce que si un détenu qui est accusé des crimes arrive à sortir dans une prison, c'est que ça va forcément de faire peur, quoi.
Les forces de défense et de sécurité ont mis fin à la cavale de Moussa Dadis Camara, de Moussa Tchegoro Camara et de Blaise Camara. Toutes les dispositions sont prises pour retrouver le dernier fugitif. Le colonel Claude Pivi a annoncé le chef d'état-major général des armées au terme d'une journée mouvementée. Mais ce jeune ne semble pas rassuré.
Les citoyens ont peur, hein, parce que le colonel Claude Pivi n'a pas été retrouvé, d'abord. Hein, mais nous apprenons qu'il a été localisé et tout ça, mais tant qu'il n'est pas retrouvé, c'est un risque pour les populations, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va préparer. On sait que c'est un régime militaire. Les militaires, entre eux, c'est un peu compliqué, on le sait bien.
L'attaque de la maison centrale de Conakry a été menée par un commando lourdement armé. Une situation qui pourrait être la conséquence d'une défaillance sécuritaire, estime cet autre jeune.
Et ce commando pénètre à Kaloum, il part exfiltrer un ancien président de la République avec ses officiers de l'armée guinéenne, puis il ressort calmement sans qu'il ne soit arrêté. Je pense qu'aujourd'hui, tout Guinéen doit s'inquiéter de la sécurité du président parce que cela prouve une fois de plus que le président lui-même n'est plus en sécurité.
Deux personnes ont été tuées à Conakry, selon les autorités sanitaires. De leur côté, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens et l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 ont exprimé dans un communiqué leur vive préoccupation et condamnent avec la plus grande fermeté les faits qui se sont déroulés le samedi. Ces organisations appellent les autorités guinéennes à faire toute la lumière sur ces événements et à garantir la sécurité des populations civiles en général et en particulier tous les acteurs impliqués dans le procès sur le massacre du 28 septembre, notamment les victimes. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Sénégal, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko est au cœur d'une nouvelle polémique. La Direction générale des élections refuse de se plier aux injonctions de la Commission électorale nationale autonome, lui demandant de remettre les fiches de parrainage au mandataire de l'opposant. Une brouille qui inquiète à un peu plus de 3 mois de la présidentielle. Éclairage de notre correspondant sur place, Wahani Johnson Sambou.
La commission électorale et la direction générale des élections du Sénégal ne parlent plus le même langage. La DGE refuse d'obéir à la Sénat qui lui enjoint de remettre les fiches de parrainage de l'opposant Ousmane Sonko. Une décision qui, selon l'expert électoral Mamadou Djoum, viole la loi électorale.
La DGE n'a pas raison. La DGE est une administration électorale qui doit respecter les règles qui gouvernent tout le processus électoral. Si vous allez dans les dispositions de l'article L57, l'administration électorale a la compétence de délivrer la fiche de parrainage et les supports électroniques. Mais il n'appartient pas à la DGE d'apprécier qui est sur la liste et qui ne doit pas être sur la liste. Ça, c'est du ressort du Conseil constitutionnel de pouvoir vérifier l'éligibilité des candidats ou l'inéligibilité des candidats.
Cette brouille entre la Sénat et la DGE passionne les débats. Mais les Sénégalais se demandent comment deux instances chargées d'organiser les élections en sont arrivées à cette situation. Pour Mam Gorgom, analyste politique, la réponse est à chercher dans les ambitions.
D'abord, une volonté d'affranchissement de la Sénat qui a été longtemps critiquée et aujourd'hui qui vient pour dire des choses qui sont aux antipodes de la volonté du pouvoir. L'autre volonté, c'est la volonté de la Direction générale des élections qui dit non même à une décision du juge de Jigenshor, donc qui continue à refuser d'admettre la candidature d'Ousmane Sonko, même à refuser d'accueillir son mandataire.
Un mandataire qui ne décolère pas après avoir été refoulé deux fois par la Direction générale des élections. Aïb Dafé parle de forfaiture alors qu'un juge du tribunal de Ziguinchor, dont Ousmane Sonko est le maire, a annulé la radiation des listes électorales du leader de l'ex-parti PASTEF en prison depuis juillet.
La décision du président du tribunal d'instance de Ziguinchor est exécutoire et applicable immédiatement puisqu'on est en matière administrative. Les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs. La DGE est en train de poser des actes très graves de rébellion, de défiance, de refus d'exécution des décisions de justice.
La DGE s'en est défendue et dit se conformer à un jugement de la Cour suprême qui a validé son refus de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Quoi qu'il en soit, cette guéguerre entre la Sénat et la DGE sème le doute quant à la crédibilité de la présidentielle du 25 février prochain. Inquiétude que certains observateurs jugent plus que légitime depuis le changement du bureau de la commission électorale vendredi par le président Macky Sall, même si le mandat de ses membres a expiré depuis plus de 6 mois. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
À Johannesburg, en Afrique du Sud, réunion au sommet du jeudi au samedi dernier de membres du gouvernement américain et de ministres du commerce et de l'industrie d'une quarantaine de pays africains éligibles à l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Ils ont discuté d'une prolongation éventuelle de l'accord sur l'AGOA qui expire en 2025. Selon Johan Smonsiz, un porte-parole du département d'État américain, l'administration et les politiques américains sont pour une prolongation. Yacouba Ouédraogo l'adjoint à Johannesburg.
Et depuis le début du programme en 2000, ça a incité des réformes économiques et des réformes politiques dans le cadre de l'AGOA dans l'année 2022. On totalisait 10,3 milliards de dollars et ce sont dans une grande partie des exportations industrielles. Ça veut dire que ça crée beaucoup d'emplois et aussi ça représente aussi le tiers à peu près des exportations des pays qui participent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup bénéficié du programme LAGOA.
On sait que le sommet planche sur une prolongation éventuelle de l'AGOA au-delà de 2025, date à laquelle, bien sûr, elle devrait normalement prendre fin. Est-ce qu'il y aura prolongation?
C'est un objectif très important de l'administration américaine de promouvoir la prolongation de la loi. Et aussi, il y a un soutien très large aux États-Unis au niveau politique pour la prolongation de la loi. Mais ça exige une décision du Congrès américain.
Il y a des pays qui sont souvent suspendus justement pour non-respect des conditions que vous avez énumérées tout à l'heure récemment. On a le Niger, l'Ouganda, entre autres. En mai dernier, l'ambassadeur américain à Pretoria a accusé l'Afrique du Sud d'avoir apporté un soutien à la Russie malgré l'invasion de l'Ukraine. Il y a des parlementaires américains qui avaient demandé que l'Afrique du Sud soit suspendue du programme de l'AGOA. Pourquoi l'Afrique du Sud n'a-t-elle pas été suspendue et accueille même le sommet de l'AGOA?
L'Afrique du Sud est parmi les pays principaux qui bénéficient du programme de l'AGOA. En fait, c'est en tête de la liste. Point de vue, le montant total d'exportation vers les États-Unis. Point de vue des relations avec l'Afrique du Sud, les États-Unis apprécient le sérieux qu'a pris le gouvernement sud-africain en poursuivant l'enquête dans la situation de la livraison d'armes du navire Lady R.
C'était Johann Schmonsies, un porte-parole du département d'État américain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Depuis novembre 2022, des combats opposent en RDC les forces armées congolaises aux rebelles du M23. Ces affrontements ont vu une nette avancée des rebelles du M23 jusqu'aux portes de Goma. Cela a provoqué une vague d'indignation qui a poussé des groupes armés locaux se faisant appeler les Wazalendo ou patriotes en Swahili à reprendre les armes. Quelques mois plus tard, certains de ces combattants sont désormais considérés comme une menace pour la sécurité. Davantage d'informations avec notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Le 23 octobre 2023 restera un jour mémorable pour Biseimana. Cet déplacé des guerres, originaire de Kibumba, qui vit aujourd'hui dans les camps des Kanyaruchinya, se souvient encore de la mort de son ami lors d'un affrontement entre les groupes armés rivaux, Wazalendo, de la région. Un événement auquel ces Congolais ne s'attendaient pas, compte tenu de l'estime qu'ils portent à ces combattants considérés comme des patriotes.
Regrettons avec ce comportement affiché par les Wazalendo au niveau de Kanyaruchinya. Nous, étant que réfugiés, nous regrettons, nous traitons d'une manière indirecte. Nous étions venus ici pour être sécurisés, mais nous regrettons avec ce comportement qu'affiche les Wazalendo.
En dehors du territoire de Nyiragongo, les habitants du territoire de Masisi se plaignent des innombrables harcèlements perpétrés par certains combattants Wazalendo. Nikorera, un habitant de Masisi, parle des graves violations des droits de l'homme.
Ils ont des prisons qu'ils appellent communément Kiboro. Ce sont des prisons de caves. Ils ont creusé dans le sol et c'est là qu'ils mettent les gens avec des conditions inhumaines, vraiment sans droit et sans respect aux droits humains.
Réagissant à ces lamentations, Héritier Ndangendangé, porte-parole du groupe armé APCLS, qui fait partie des Wazalendo, reconnaît qu'il y a eu quelques dérapages. Cependant, il rejette l'idée selon laquelle ces combattants constituent une menace pour la sécurité de la province du Nord Kivu.
Ce sont des cas isolés et nous ne pensons pas que ça représente vraiment un danger pour la nation congolaise ou pour la population. Si partout les résistants ou les jeunes avaient notre philosophie, il n'y aurait pas des ADF qui massacrent déjà Beni.
Conscient du danger et excédé par les excès de certains combattants patriotes, le gouverneur militaire du Nord Kivu, dans un communiqué publié le 25 octobre 2023, a interdit la présence de ces combattants à Goma et derrière les lignes des FRDC. Pour rappel, ces groupes d'autodéfense, se réclamant être des patriotes, ont conquis les villages jadis conquis par les rebelles du M23. Si certains craignent une menace de ce phénomène, d'autres saluent le courage de ces jeunes, prêts à tout pour la cause de leur patrie. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Firmin Koyaweda, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.